Vous écoutez
RMC.
Alors, on va parler de l'actu anglaise, de l'actu italienne. Alors, vous allez voir que l'actu italienne, en fait, rejoint l'actu française, puisqu'il y a des évolutions de structure à la Ligue italienne en termes de business. Vous allez voir que c'est très intéressant, et peut-être que la France pourrait d'ailleurs s'en inspirer. On va en parler, donc on va quitter un peu le terrain, là, quelques minutes, pour parler des structures de notre football. Alors, on accueille d'abord Julien Laurence, qui est à Londres, bien sûr. Julien, bonsoir. Salut, Julien. Julien, est-il parmi nous? 3, 2, 1.
Vous m'entendez, les gars?
Oui.
Allô, allô.
Tu es là. Salut,
salut
Julien.
Salut à tous.
Johan Crochet, notre spécialiste du foot italien, est là également. Salut, Johan.
Salut, Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Et on accueille, messieurs, Pierre-Emmanuel Veille, qui est avec nous. Alors, quand quelqu'un qui s'appelle Veille s'assied dans le studio, ici à RMC, on l'écoute, hein, les gars. Parce que...
je ne sais pas ce qu'on le coupera pas, même.
C'est le nom du patron. Il n'y a rien à voir, mais bonsoir, Pierre-Emmanuel.
Je ne savais pas s'il n'y a rien à voir.
Ah, t'aurais. On va encore plus t'écouter. Hein. Tu dis que Daniel?
Dans le doute, on va s'abstenir.
Voilà.
Comme disait Michel Vautreau.
Alors, Pierre-Emmanuel connaît par cœur le fonctionnement de la Ligue, de la DNCG, enfin, toutes ces instances, parce que tu as bossé avec eux, tu as bossé longtemps avec la galaxie d'Armon, comme on l'appelle. Voilà, et tu es aujourd'hui dans la finance et dans le sport. Et vous allez voir que Pierre-Emmanuel est un laboratoire à idées sur l'évolution des structures qui vont nous occuper là, dans les minutes qui viennent, parce que demain, il y a cette fameuse élection donc, du conseil d'administration de la Ligue qui ensuite va choisir un nouveau président. On va y venir.
Et je vais nous dire s'il faut attendre quelque chose de cette élection, parce que j'ai bien peur qu'il ne faille rien en attendre.
Alors,
malheureusement.
En attendre tout de suite, peut-être pas, parce que justement, on est plus sur un débat d'hommes qu'un débat d'idées.
Et oui.
Mais peut-être que c'est aussi le rôle de votre émission de poser les bonnes questions. Et
oui, on les pose depuis tellement longtemps, mais à la Ligue, il ne se passe rien.
Juste avant, un petit point sportif avec toi, Julien, sur le match de l'Angleterre hier soir. L'Angleterre qui n'a pas gagné hier. Il y a eu les histoires Foden et compagnie, là. Donc, ça fait parler beaucoup, non, aujourd'hui, ce résultat?
Ça fait parler, effectivement, parce que déjà, ça a été encore très mauvais de la part de l'Angleterre, un petit peu comme contre l'Islande quelques jours auparavant, sauf qu'au moins en Islande, ils avaient gagné. Cette fois, ils ont fait match nul contre le Danemark 0-0. En première période, ils ont eu 4 touches de balle dans la surface de réparation adverse. Aucun tir cadré. Et Gareth Southgate, vous savez à quel point je porte pas Gareth Southgate dans mon cœur, mais la composition d'équipe où il lance le jeune Calvin Phillips, le milieu de terrain de Leeds, pour sa première sélection après une très bonne saison en Championship, à côté de Declan Rice de West Ham, qui sont deux joueurs au profil très très similaire, qui jouaient tous les deux sur la même ligne, avec aucune créativité, aucun mouvement, rien du tout dans ce 3-4-3 qui ressemblait quasiment à rien. Moi, je comprends pas. Pour moi, c'est encore une preuve de l'incompétence de Southgate à ce niveau-là. Parce que d'aller au Danemark avec tout le potentiel offensif que cette équipe d'Angleterre a, et que Sterling, Sancho et Kane devant n'aient quasiment aucun ballon pour jouer, qu'il y ait très peu de service pour les attaquants, et que Southgate attende autant de temps, même à la base, qu'il fasse cette équipe d'entrée-là aussi défensive, aussi conservatrice, je dirais. Moi, je trouve ça hallucinant. Quand tu vois sur le banc, par exemple, il y a Mount ou il y a Grealish qui sont entrés en jeu, certes, plus tard dans le match et qui ont un petit peu fait bouger les choses. Mais voilà, pour moi, encore une fois, la preuve que Southgate est complètement à côté de la plaque.
Bon, à suivre les résultats. Mais
il fait donc des équipes défensives, mais il n'arrive pas à marquer.
Ah. À la différence de qui on sait.
Ouais, c'est métier.
C'est un raison. Julien, explique-nous. Alors, il y a un grand fantasme en France quand on parle à chaque fois de la Ligue, c'est ouais, les présidents, c'est Cayazo qui dit toujours ça, on veut une société commerciale comme les Anglais. Sauf qu'au final, on ne s'est jamais vraiment penché sur ce qu'ils font vraiment les Anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de la Première Ligue?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un fonctionnement assez jeune, assez nouveau, on va dire, puisqu'il remonte à 1992, quand les clubs de première division à l'époque, puisque c'était son nom avant la Première Ligue, ont décidé de s'émanciper finalement de la Ligue professionnelle de football qui était à l'époque, donc qui comportait les quatre divisions professionnelles en Angleterre, donc 92 clubs, de la première à la quatrième division. Parce que les grands clubs, notamment de cette première division, aujourd'hui de Première Ligue, les Arsenal, les Manchester United, Liverpool, considérait que c'était finalement impossible de changer la façon dont le football anglais était dirigé à cette époque-là, dans laquelle l'élite était dirigée, puisque tu devais à chaque fois avoir 92 clubs qui votent, puisque les 92 clubs étaient ensemble dans la même
Ils ont resserré l'élite, ils ont fait de l'élitisme et ils n'ont pas eu peur de l'élitisme. C'est-à-dire, on va rester entre gros pour discuter, pour avancer. Ce que nous n'arrivons jamais à faire, puisqu'il faut toujours qu'ils se mettent d'accord à je sais pas combien.
Non, on n'a pas 92, on a deux divisions.
Tous les clubs pros, ça fait un petit peu plus. Et on sait le poids 40, et les engueulades 40. Mémorables et historiques qu'il y a entre les, la poignée de riches et ce que j'appelle en rigolant les cendants. Ça fait tout le temps la même histoire.
Et donc Julien, alors.
Ils n'ont plus ça.
Ça rappelle la guerre des Sandans.
Si tu veux. Vas-y, Julien, continue.
Et donc en 92, notamment sous l'impulsion de David Dean, qui était à l'époque le vice-président d'Arsenal, qui était un génie du lobbying, qui a su, notamment à la fédération anglaise, parce qu'il fallait absolument le soutien de la fédération anglaise à ce moment-là pour s'émanciper des autres clubs professionnels anglais. On crée donc la Premier League qui fonctionne comme une société, effectivement, puisque la Premier League appartient à ses 20 clubs membres. Donc, peu importe qui descend, qui monte, mais les 20 clubs qui sont cette saison en Premier League, la Premier League leur appartient. Chacun est actionnaire avec une voix. Donc, chaque club vaut exactement le même poids, que ce soit Sheffield United ou Manchester City ou Liverpool. Et donc à chaque fois que tu prends une décision ou que tu veux changer un règlement ou que des contrats ou n'importe quoi, et ben chacun vote, tu dois avoir 14 voix sur les 20.
C'est un truc important, sans représentation de ce qu'on appelle en France les familles, là. C'est-à-dire là, t'as le poids de l'UNECATEF, les entraîneurs.
Tout le monde et les syndicats, l'UNFP qui prend ses 10 millions là, et ses vignettes Panini. Et le syndicat des entraîneurs et les indépendants.
En fait, dans le modèle anglais, ça n'existe pas tout ça.
Ça n'existe pas ça. Et la fédération anglaise.
Pas de temps à faire des déjeuners à répétition à la Villa Corse et compagnie.
C'est agréable parfois un déjeuner, Daniel.
Pas la Ligue, c'est pas la Villa Corse, c'est la Fédé, pardon.
Oui, pas Julien.
Mais la grande différence aussi avec la France, c'est que la fédération anglaise a gardé un droit de veto. Mais qui est plus officieux qu'officiel, finalement, qui n'est quasiment jamais utilisé. Ça veut dire qu'à aucun moment, la fédération anglaise ne va venir s'immiscer dans ce que la Premier League et dans ce que ces 20 clubs de l'élite peuvent faire, par exemple. On l'a vu encore une fois, notamment quand
un cas comme Le Graët qui vient, qui dit c'est moi le patron, c'est moi qui vais décider si on prend la Ligue 1 ou pas, ça ne peut pas exister en Angleterre.
Alors, il n'y a que chez nous. Dans Noël, il n'est que chez nous.
Techniquement, il pourrait effectivement, parce qu'il y a ce droit de veto, mais encore une fois, je pense qu'ils ont gardé ce droit de veto de manière plus officieuse qu'officielle. Et vu la puissance de la Premier League aujourd'hui par rapport à tout le reste en Angleterre, ce serait quasiment impossible que la fédération puisse enfreindre quoi que ce soit par rapport à ce que la Premier League voudrait faire.
Alors, j'aimerais maintenant que Johan nous explique comment les choses évoluent en Italie, notamment aujourd'hui, parce qu'on a appris qu'aujourd'hui l'organisation qui chapeaute la Serie A veut faire rentrer au capital des nouveaux actionnaires pour enrichir le championnat italien. Explique-nous, Johan.
Ouais, alors je vais remonter juste un tout petit peu plus tôt, quelques années en avant. Je vais pas remonter jusqu'en 1992 comme Julien, mais en Italie ça part de 2010 et c'est encore le même concept d'élitisme, puisque avant la Serie A et la Serie B étaient gérées par ce qu'on appelait la Lega Calcio, et il y a eu une scission entre la Lega Serie A, donc qui gère la Serie A, et la Lega B, qui gère la série B. Donc déjà, il y a eu une scission entre première et deuxième division. Ensuite, la fédération italienne, on parlait des familles de football. La fédération italienne, il y a 7 entités qui la composent. Il y a Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, c'est la troisième niveau. Lega Dilettanti, c'est les amateurs. Association des joueurs, association des entraîneurs, association des arbitres. Ça, c'est pour vous donner un peu le panel du football italien et comment il est géré. Aujourd'hui, ils veulent passer un cap au niveau de la Lega Serie A, parce que tout est une histoire de pognon, clairement, et pas forcément de gestion. Moi, j'estime qu'ils devraient plus se pencher sur comment ils gèrent leur argent plutôt que d'en chercher toujours un peu plus, mais ça, c'est un autre débat. Mais ils veulent toujours un peu plus d'argent et réduire le gap qu'il y a aujourd'hui avec la Première Ligue, mais même la Bundesliga et la Liga, qui ont un chiffre d'affaires plus important que la Serie A. Et pour ça, ils ont décidé d'être un peu créatifs, entre guillemets. C'est qu'ils veulent... Alors, ça a été voté, mais il y a encore plein de processus pour que ça soit mis en place. Ça a été voté et accepté par les 20 clubs de Serie A. La création d'une entreprise de médias qui sera chargée de produire du contenu et de marketer et gérer les droits télé. puisqu'on sait que les clubs sont ultra dépendants des droits télé, c'est la manne principale de recettes en Italie, et tout le monde estime, enfin les acteurs estiment en tout cas, qu'on peut faire beaucoup plus que 1,3 milliard actuellement en Italie et à l'international pour les droits télé. Donc dans cette nouvelle société, ils veulent faire entrer des fonds privés qui s'appellent des capital investissement, des sociétés de capital investissement, donc des purement financiers, on ne parle pas du tout de sportifs, qui vont aider cette nouvelle société à prendre des parts de marché, à grossir et à s'auto-financer par la suite.
Ça et peut être un peu plus dangereux, ça, quand même.
C'est un peu plus dangereux, je pense, mais ces fonds privés vont prendre 10% d'actions de la nouvelle société qui sera créée pour... Alors là, il y a deux offres sur la table, il y en avait 8 au total, mais deux seulement ont été retenues, entre 1,35 et 1,65 milliard d'euros pour 10% du capital. Et ces deux sociétés ont déjà proposé à la Serie A, ont assuré plutôt que proposé, des droits télé à minima 1,5 milliard d'euros pour la prochaine renégociation de droits télé entre 2021 et 2024. Donc voilà un peu l'idée, c'est de faire rentrer des fonds privés dans une nouvelle société un peu commerciale, entre guillemets, plus média que commercial d'ailleurs, mais qui gérera et distribuera les droits télé.
Ok, donc les Italiens se bougent, les Anglais ont un modèle différent, pareil pour les Allemands et les Espagnols. Roland, je vois que ça t'interpelle.
Non, c'est-à-dire que j'ai une question à poser, parce que j'écoutais avec beaucoup d'attention. Est-ce que le fait qu'il y ait justement les huis clos, ou les presque huis clos, ça augmente les droits télé, puisqu'il va peut-être y avoir plus de personnes qui vont s'abonner?
Alors ça augmente surtout la pression sur les clubs pour trouver de l'argent, ça c'est clair. Pour les droits télé, on verra, Roland. On a vu, Julien pourra le confirmer, que en Angleterre, ça baissait légèrement. Il sera difficile d'aller beaucoup plus haut de toute façon que ce qui est fait actuellement. Parle pour la Première Ligue, Julien me corrigera, mais en Italie, on estime qu'on peut progresser quand même encore un peu, mais on ne pourra pas atteindre des plafonds incroyables. Donc, huis clos ou pas huis clos, on ne pourra pas exploser tous les plafonds en termes de droits télé.
Alors, on va rentrer dans les détails un peu de la gouvernance tout à l'heure, mais le modèle français, Pierre-Emmanuel, toi qui le connais bien, est-ce qu'aujourd'hui, il est complètement obsolète, selon toi, ou est-ce que quand même, il y a des trucs positifs qui fonctionnent ?
Bien sûr, il y a des trucs positifs qui fonctionnent. On s'est quand même rapproché d'une, on va dire, gouvernance à l'anglaise. On a un directeur général maintenant qui a été installé depuis quelques années, qui a fait des choses pour travailler le produit Ligue 1.
Il n'est pas sûr de rester. Hein.
Il n'est pas sûr de rester, mais il y a des...
4 ans après, on risque de tout déglinguer.
C'est un peu malheureusement la tendance qu'on observe. C'est que dans la mesure où on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un modèle, soit qui est cette société commerciale qui est effectivement un modèle dont certains rêvent...
Mais... On est d'accord qu'ils n'y arriveront pas à faire ça.
En tout cas, tu
penses que, sachant toutes les familles, tous les gens qui doivent parler, l'interventionnisme répété de Le Graët, ils peuvent réussir, les gros clubs, à essayer de monter ça?
Je pense qu'ils peuvent réussir. Après, c'est vrai que la voie qui a été empruntée, qui a été choisie récemment, n'était pas celle-là. C'était de faire une vraie réflexion en termes de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il y a un millefeuille d'intervenants, pas seulement les familles, mais même au sein même de la Ligue. On a une assemblée, on a un bureau, on a un comité d'administration. Même pour prendre une décision, c'est déjà extrêmement compliqué.
Donc, ben oui.
Société commerciale est une voie. Il y a peut-être une voie plus française, on va dire, qui consisterait à très singulièrement améliorer la gouvernance. C'est pas très compliqué. Hein. Finalement, il faudrait un président souverain qui choisisse son directeur général.
Et qui va lui donner le pouvoir à ce président souverain?
Ça doit être les clubs.
Mais ils vont pas le faire.
On peut
toujours. Parce qu'eux, ils continuent à avoir l'idée que c'est les élèves qui choisissent le prof.
Oui, enfin non, élève-prof, c'est pas le bon,
C'est un peu ça, c'est
plutôt les membres de la coopérative qui choisissent le mec qui dirige la coopérative. Tu vois ce que je veux dire?
Il n'y a plus de boulanger pâtissier, hein.
Non,
d'accord.
Non, mais je vois pas comment retourner ce fonctionnement, en fait. Il faudrait qu'ils soient tous assez soucieux du sens commun pour se décider à choisir un mec et à le laisser bosser.
Je pense qu'il existe quand même au sein des présidents. Alors, on entend souvent un peu les mêmes, en réalité. C'est vrai que Jean-Michel Aulas s'exprime beaucoup, Bernard Caillot s'exprime beaucoup. Il y a quand même d'autres présidents qui s'expriment moins et qui travaillent aussi. Bien sûr. Il y a des présidents qui sont brillants, en tout cas qui réussissent au niveau
mais
de
la. Mais si déjà ils étaient que 20 pour décider pour eux, pour l'avenir de la Ligue 1. Et avec dans l'oseille qui récupère des droits télé, avec une partie. Vous inquiétez pas, la Ligue 2, on va pas vous abandonner parce qu'on peut pas vous abandonner parce que ça nous sert aussi. Si vous développez vos joueurs et tout, on peut peut-être en récupérer. Mais nous, à 20, on va décider de notre avenir et on va pas se mettre à discuter avec toute la Ligue 2, avec l'UNECATEF, avec l'UNFP, avec machin. Et avec... Parce que moi, quand j'entends qu'en dehors de la Ligue, là, t'as encore Philippe Pia qui est venu chialer, là, hier ou avant-hier dans là, tu dis, putain, mais tu veux pas t'occuper de ta vignette Panini, arrêtez de nous saouler.
Non, bah Daniel, il fait pas que les vignettes Panini non plus. C'est un peu caricatural.
C'est vrai, excuse-moi. Que dit Daniel, que quand on écoute vos correspondants étrangers, c'est vrai que le point commun de toutes les créations de, que ce soit le modèle italien ou le modèle anglais, ça a été une scission à un moment donné.
Ah oui.
Avec les clubs, on va dire, moins influents et des divisions inférieures. Parce que c'est extrêmement difficile et, moi, je trouve qu'en plus, ça peut être vertueux pour eux. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, au niveau du championnat national, depuis quelques années, qu'il a pris son destin entre ses mains et qu'ils ont développé en fait des idées. C'est devenu un produit qui a été commercialisé avec des droits télé, avec un petit peu plus de travail marketing autour.
Ouais, il y a des gens qui sont intéressés.
Donc la Ligue 2 pourrait avoir finalement aussi un parcours assez similaire, ouais. Pouvoir trouver une autre histoire à raconter que celle de la Ligue 1 finalement.
Eric, ça t'interpelle tout ce que t'entends là ou tu te dis
Interpellé, non, mais par contre hâte de voir ce qui va se passer derrière parce qu'après l'épisode Covid, les décisions qui ont été prises.
Tu pensais au monde nouveau, ils allaient tous s'entendre, et ça allait être formidable.
Non, pas du tout. Non, mais voir ce qui va se passer, parce qu'on a des exemples à l'étranger de ligues qui ont pris, donc puisqu'on vient de nous expliquer, qui ont pris une autre direction, qui sont puissantes, qui ont beaucoup d'argent. Alors moi, après, je me dis toujours qu'un jour la bulle, que ce soit des droits télé, voire le système italien là qui veut faire rentrer des privés, du privé là-dedans.
Ça, je trouve un peu plus dangereux. Est-ce que avis, toi, là-dessus, sur les investisseurs, sur les fonds de capitaux, là?
Moi, je trouve ça assez dangereux aussi, dire. Alors, c'est en fait une réplique de ce qu'on peut voir dans d'autres sports. Hein. On s'aperçoit qu'il y a des gros fonds d'investissement qui sont rentrés, par exemple, dans la Formule 1, dans les championnats de moto, et qui sont simplement.
La Formule 1 a parfaitement réussi son coup. C'est absolument admirable ce qu'ils ont réussi à faire pour promouvoir le produit. C'est absolument fantastique. Mais est-ce que ce modèle-là fait
attends, il n'a pas fini de te répondre là.
Par exemple, le tournoi Destination aussi a maintenant changé. Alors pourquoi ça? C'est parce que finalement, on est dans une concurrence toujours plus importante dans ce sport spectacle. Il y a des chaînes de télé, il y a du contenu à créer. Et en fait, ces fonds d'investissement-là, ils spéculent, mais ils sont aussi investis finalement dans l'idée que. La société va consommer de plus en plus de ce type de produit-là et que le fonds qui
donc ils investissent dans la Liga,
ils investissent là-dedans en pensant que c'est un marché qui va générer des bénéfices.
Est-ce que ça ne fait pas penser à ce qui s'est passé il y a quelques années? Comment s'appelait cette boîte qui a coulé et qui a entraîné beaucoup de... La boîte qui faisait du business avec la FIFA, les ISL? Ouais. Tu te souviens de ça? Ça ressemble pas à ça, où on avait sous-traité la négociation des droits. Ça s'était pas forcément bien fini.
Cette histoire, c'était pas bien fini. Il y avait d'autres histoires qui s'étaient
bien finies.
Le football français, comme le rappelait Gilbert, moi j'ai travaillé longtemps avec Jean-Claude Darmon. Il a quand même créé les structures de négociation des droits télé. Au moment où lui était aux commandes, il y avait un patron et les droits n'ont fait qu'augmenter. Canal+ a été même créé de cette mouvance-là.
Donc,
c'est une société bien organisée peut aussi amener de la création de valeur.
Oui, évidemment.
Messieurs, si je peux rajouter juste un petit truc, vu qu'on parlait de Formule 1, il faut savoir que le fonds qui était entré au capital de la Formule 1, qui s'appelle CVC Capital, a fait une offre pour la Serie A justement. Et dans les deux candidats retenus, entre guillemets, en finale, pour acquérir les 10% de la future société de la Serie A.
Ah d'accord, donc effectivement, il pourrait ramener leur savoir-faire en quelque sorte.
La Formule 1 fait un travail. Mais fantastique avec leur série sur Netflix, la promotion de documentaires, ça a complètement réveillé la discipline. Vraiment, c'est.
Oui, d'ailleurs, même la série est même plus intéressante que le Grand Prix.
Oui.
Sauf dimanche dernier où, comme par hasard.
Vrai, non, mais justement, je veux dire, malheureusement,
il y a un savoir-faire marketing.
Admirable, la Drive to Survive 1 et 2. Après, il se trouve que la saison est moins emballante parce que c'est toujours le même qui gagne. Ça, c'est vrai que si dans la foulée, ils avaient eu une bonne saison avec de la concurrence, c'était bingo à fond les ballons pour eux, quoi. Mais néanmoins, ils ont parfaitement formaté, ils ont vendu un super beau produit.
On va continuer le débat, mais Pierre-Emmanuel, il y a quand même un secteur qui est en mutation, parce qu'effectivement, il y a de nouveaux acteurs. Bon, il y a les GAFA, il y a Netflix. Ça, c'est des acteurs, on ne peut pas passer à côté. Et le foot français en particulier ne peut pas passer à côté.
Non, justement, c'est pour ça que ce que je regrette un peu, moi, dans cette élection de demain, c'est qu'effectivement, on ne parle pas assez de quel est le programme. Finalement, toute élection, quelle qu'elle soit, généralement,
il y a un programme. C'est de mettre Denis Aul, copain de Le Graët.
Ça ne fait pas un programme, ça.
Bah donc, si non, ça ne fait pas un programme.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'échange d'idées, de débat d'idées, là, de gars qui vient, qui dit moi, je veux faire ça pour
une
le foot.
Tu mets un pote, c'est un programme. D'après, ils choisissent le resto où ils vont aller.
Demain, il pourrait quand même y avoir des auditions, il paraît. Hein. Mais ce n'est pas sûr.
Oui, bah, parmi les personnalités qui seront auditionnées demain, on ne sait même pas lesquelles ça va être, mais certains sont des gens qui ont déjà formulé des propositions. Parler de Vincent Labrune, c'est quelqu'un qui s'est exprimé déjà sur des formats de compétition, par exemple des évolutions. Michel Denisot, c'est un homme de médias, même si bon, il n'est plus aussi impliqué, jeune qu'avant. Mais c'est vrai que c'est un homme de médias qui pourrait avoir un programme sur ce sujet-là au moins. Donc évidemment, c'est quand même des gens qui ont certaines qualités. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est que ni au niveau des clubs, ni au niveau médiatique, on se pose pour se poser les vraies questions, de savoir quels sont les enjeux de cette élection. Alors, il y a les enjeux de gouvernance, vous l'avez rappelé 10 fois, mais finalement, il y a aussi quelle va être la feuille de route de ce...
Axes de développement, cette fameuse société de commercial dont on entend toujours parler. Est-ce que quelqu'un la porte ? Est-ce qu'on sait si Denisot est pour ? Est-ce qu'on sait si Labrune est pour ? Est-ce qu'on sait si les autres candidats sont pour ? Qu'est-ce qu'ils vendent comme... c'est ça.
Non mais là, Daniel, en fait, ils peuvent pas être pour, parce que la société commerciale, c'est un renversement de la table, c'est un fonctionnement différent, c'est des structures différentes, c'est peut-être plus le conseil d'administration.
Qui va être élu il va décider de faire ça avec les 20 clubs de Ligue 1. Il faut dire ce que tu veux faire.
Quand on écoute vos correspondants étrangers, il y a la première ligue qui effectivement, elle a complètement annulé la ligue n'existe plus là-bas. C'est la première ligue dépend directement de la Fédé, et encore, votre correspondant disait à juste titre que la Fédé a plus vraiment voix au chapitre. Mais en Italie, la Ligue existe encore, s'occupe de la gouvernance, et il y a une société commerciale qui s'occupe que de la partie commerciale et laisse la gouvernance à la Ligue.
Ouais.
C'est un format qui fonctionne.
Les règlements, ça fait quand même, il reste du taf. Hein. Une fois que tu laisses le business, la Ligue doit aussi avoir un pouvoir, organiser les compétitions, le calendrier.
Alors, on va continuer le débat dans quelques instants. Merci les gars, Johan et Julien, pour ces éclairages là.
Salut les mecs.
Pour une fois, ils sont pas fous.
Plus tard, capitaine, on a un match à gagner.
À tout à l'heure pour le quiz, ouais, Johan. À tout à l'heure. Nous, on va continuer le débat avec Pierre-Emmanuel Veil dans quelques instants pour bien comprendre les enjeux de ce qui va se passer demain à la Ligue. Je le répète, ça peut paraître anecdotique, Denisot, Labrune ou je sais pas qui, mais pourtant, ça l'est pas parce que ça déterminera quand même des stratégies à venir, même si on n'est pas tout à fait content du fonctionnement. Et puis surtout, quelles pistes de changement peut-on amener ? On va en parler dans quelques instants. À tout de suite.